Nous sommes dans une magnifique salle toute neuve et c'est un beau lieu pour parler ce matin de la résilience. On va entrer dans le cœur du sujet, mais sachez déjà que cette salle toute moderne, toute neuve, qui a fait ressusciter des vieilles pierres pour les mener plus loin encore, c'est l'exemple même de notre sujet ce matin. Ce matin, on va ensemble ouvrir la Bible, relire ensemble des récits bibliques, des récits que nous connaissons, que nous avons entendus. Mais nous avons parfois de la Bible et des récits bibliques des images empreintes de la foi de notre enfance. Et parfois plus encore de l'enfance que de la foi. C'est-à-dire qu'on imagine dans la Bible entrer en contact avec un monde doux, bienveillant, où il s'agit d'être gentils les uns avec les autres. Et puis il suffit de lire quelques phrases, quelques textes, pour se rendre compte qu'il n'en est rien. La Bible est bourrée d'histoires tragiques, de meurtres, d'inceste, de relations qui tournent mal, de ruptures violentes, et d'abandon, de trahison, d'enfants non désirés, d'enfants non reconnus, de querelles de pouvoir, de succession. Mais au fond, c'est peut-être notre chance parce que les récits bibliques ressemblent à la vraie vie. Nous échappons, je l'espère, au pire, à ces relations si violentes, mais pourtant nous savons bien que les relations sont ce qu'il y a de plus difficile à vivre, et dans notre vie, c'est surtout cela qui pose problème. Ces récits bibliques vont donc nous enseigner quelque chose de notre propre vie. Et j'aime beaucoup cette manière de lire la Bible du Père Chenu, un dominicain du XXe siècle, que vous connaissez peut-être, et qui disait « Je lis la Bible avec la Bible d'une main et le journal de l'autre ». Un autre dominicain que vous allez rencontrer demain matin, qui est ici, le frère Michel Van Aert, a coutume de dire « Je lis la Bible et elle prend feu au contact de ma vie ». Alors ce matin, nous allons parcourir quelques récits et essayer de leur donner du sens à la lumière de notre propre existence, et réciproquement, notre existence pourrait prendre sens à la lumière de ces récits bibliques. Pourquoi ? Parce que ces récits disent quelque chose de structurel, de l'humain, quelque chose de permanent. Il y a des constantes, et c'est ça qu'on va essayer de repérer. Ce ne sont donc pas des vieux récits qui appartiennent à la mythologie ou à l'Antiquité, mais des récits qui sont fondateurs, qui disent quelque chose qu'on dira métaphysique, essentiel, quelque chose qui demeure. Alors vous avez choisi cette année comme thème de l'université d'été la relation humaine à l'épreuve. Il y a quelques années, je ne me souviens plus si c'est il y a 2 ans ou 3 ans, nous avions déjà travaillé sur la question de la relation à l'autre, et les autres, ah oui, et les autres, point d'interrogation. Et ensemble, plus particulièrement, pour ceux qui étaient là, nous avons travaillé sur la pensée d'Emmanuel Lévinas, ce philosophe juif du XXe siècle, qui a travaillé beaucoup sur la relation, l'éthique de la relation. Aujourd'hui, l'équipe de préparation de l'université d'été de Castanet, pour sa 9e édition, a choisi la face nord, la voie abrupte. Nous allons explorer la relation dans ce qu'elle a de difficile. Alors, comme premier titre, j'ai choisi cette citation du jésuite Denis Vasse, « L'autre m'altère et me désaltère ». Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est cette toute première partie, « L'autre m'altère ». L'autre m'impacte. L'autre me fait être, exister. Il me permet d'être ce que je suis. Lévinas dit « la relation est constitutive de la personne. C'est dans la relation à l'autre, par et dans la relation, que je deviens ce que je suis. » Ça, c'est pour dire qu'il y a un impact et qu'on présume qu'il sera positif. Mais nous le savons, l'expérience le montre, l'impact est aussi négatif. L'autre m'altère et il peut m'atteindre, il peut me blesser. Et c'est tout le thème de ce matin, de la blessure. La relation, c'est la capacité à entrer en contact avec l'autre et l'autre avec moi, mais ce contact peut être rugueux, il peut même être meurtrier. L'autre a le pouvoir de me tuer. Et nous savons qu'il y a bien des manières de tuer. Évidemment, le meurtre, c'est la manière la plus radicale, mais on tue aussi avec des mots. On tue avec des situations anxiogènes. On tue en mettant l'autre dans des impasses ou en étant soi-même mis dans des impasses. Et c'est cela que nous allons explorer ensemble ce matin. Emmanuel Lévinas, très curieusement, mais ce n'est pas si étonnant que ça, va mettre au point de départ de son éthique de la relation l'interdit de tuer. Tu ne tueras point. Ça, c'est une des injonctions du Décalogue. Lévinas est un philosophe juif, mais c'est très curieux qu'un philosophe débute sa philosophie de la relation par l'interdit de tuer. Tu ne tueras point. Et c'est parce que nous prenons conscience que dans la relation, l'autre a ce pouvoir de tuer, ou moi-même j'ai ce pouvoir de tuer l'autre, qu'on comprend qu'initialement est posé l'interdit de tuer pour révéler justement ce pouvoir, cette potentialité négative. Chez Emmanuel Lévinas, et nous n'irons pas plus loin ce matin dans l'exploration de ce philosophe, mais il est intéressant de comprendre que cet interdit de tuer se lit sur le visage de l'autre. Certains d'entre vous sont peut-être familiers de la philosophie de Lévinas, et on dit que c'est une éthique du visage. L'autre s'offre à moi dans la nudité de son visage. C'est d'abord un visage qui me permet d'entrer en relation. Et le visage est ce qu'il y a de plus vulnérable. Alors, il y a même des paroles de Lévinas qui disent, alors je vous cite, c'est dans son livre Éthique et Infini. Éthique et Infini, c'est l'ouvrage qui est peut-être le plus facile à lire pour ceux qui veulent débuter la connaissance d'Emmanuel Lévinas. C'est un livre d'entretien et donc il parle de manière un tout petit peu plus simple que dans ses autres livres. Ses autres livres sont assez difficiles de prime abord. Alors je cite, « Il y a d'abord, dit-il, la droiture même du visage, son exposition droite. » Sans défense, la peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée, bien que d'une nudité dans le visage, dit-il, une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaye de masquer cette pauvreté en prenant des poses, en se donnant une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous permet d'interdire de tuer. Je veux dire qu'autrui, dans la rectitude de son visage, n'est pas un personnage dans son contexte. D'ordinaire, on est un personnage. On est professeur à la Sorbonne, on est le fils du président de la République, on est président du Conseil d'État, tout ce qui est dans le passeport, la manière de se vêtir et de se présenter, les apparences. Et toute signification de ce que nous sommes l'est par rapport à ce contexte. On peut dire, au contraire, que le visage n'est pas vu, il est l'incontenable et il vous mène au-delà. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou du moins, dans le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Alors, cette thématique du visage n'est pas le centre de notre contribution ce matin, mais ça nous permet de comprendre la vulnérabilité de la personne humaine. Nous nous offrons aux autres de manière vulnérable. Et quand on dit que la relation est constitutive de la personne, on dit aussi la vulnérabilité, l'immense fragilité de chaque personne humaine. La vulnérabilité est aussi constitutive de la personne. La vulnérabilité, c'est donc à la fois une fêlure, une faiblesse en chacun, à la manière d'un potentiel, et la blessure elle-même, c'est quand cette fêlure est atteinte, quand cette faiblesse est atteinte. Alors, pour le dire plus positivement, on dira « j'ai un faible pour quelqu'un ». Avoir un faible pour quelqu'un, c'est manifester une faiblesse, une capacité d'être blessé. Et c'est aussi dire l'amour, l'amitié, la sensibilité à l'autre. Voilà. Donc il faut toujours tenir de manière conjointe la vulnérabilité de la personne qui dit sa capacité à entrer en relation, à être jointe, mais aussi à être blessée. Relation et vulnérabilité sont donc les faces, les deux faces d'une même anthropologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça c'est le deuxième point. Ça veut dire que la crise, la blessure, sont quelque chose de normal. On imagine toujours que la blessure, c'est un accident de parcours. On imagine que c'est une sortie de route, que c'est quelque chose de complètement anormal et qu'il conviendrait de revenir à une situation sans crise, sans conflit, sans blessure. Or, si on dit que la vulnérabilité, c'est l'autre face de la relation à l'autre, eh bien, on comprend que la blessure est quelque chose de normal. Pour s'en convaincre, s'il le faut, parcourons ensemble très brièvement les situations de crise, de blessure. D'abord en famille. En famille, les situations les plus banales sont celles de la difficulté à communiquer. Entre conjoints, entre parents et enfants, entre générations, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, et je pense que ça a toujours été le cas, une rupture dans la transmission. Je rencontre énormément de grands-parents, notamment, qui sont très anxieux à l'idée de ne plus transmettre leurs valeurs, leur expérience, leur sagesse. On a appris à vivre, on a compris beaucoup de choses de la vie, et malheureusement, on ne peut pas transmettre à la génération qui vient les leçons qu'on a tirées de l'existence. Et on les voit refaire inlassablement les mêmes difficultés, les mêmes erreurs parfois. Donc rupture de transmission. Un enfant ne reprendra pas nécessairement l'entreprise familiale. Je suis d'un village viticole de Bourgogne. J'ai un très bon ami qui est viticulteur, qui a bâti un domaine viticole pendant 40 ans. Et il n'a jamais pu le transmettre ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants. C'était pourtant extérieurement un immense cadeau. Et le petit-fils n'était absolument pas intéressé et est devenu inspecteur des impôts. Rupture de transmission aussi au niveau religieux. On est ici à l'université d'été chrétienne de Castanet, et nous le savons, c'est tragique quand on ne peut pas transmettre à ceux qui nous sont proches, à ceux qui nous sont chers, l'essentiel de notre existence, notre foi. Il y a énormément de familles chrétiennes où les petits-enfants ne sont plus baptisés, ne sont plus catéchisés, et c'est plus qu'une rupture, c'est un gouffre entre les générations. Alors, difficulté de communication, difficulté de transmission, ça c'est le quotidien banal. C'est sans compter les situations plus douloureuses, plus aiguës, les ruptures, les conflits dans les fratries, les dissensions entre frères et sœurs, les différences radicales d'options de vie, de valeurs, ou encore les questions d'héritage et leur lot de disputes. Les études notariales sont des lieux de très grande souffrance. Voici le mal banal. En version plus dure encore, ce sont des situations de rupture totale, de divorce et de divorce très conflictuel, de garde des enfants qui se prolonge. Je suis témoin, moi, d'une situation en ce moment très douloureuse où une petite fille de 5 ans est prise en otage entre deux ex-conjoints qui se divisent. Situation aussi de violence conjugale. Je rappelle qu'une femme meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son conjoint. Donc là, on est bien dans le meurtre dont on parle. De harcèlement moraux, voire de drames familiaux dont la presse nous relate quasiment chaque semaine les tragiques épisodes d'un époux, d'une épouse qui tue ses enfants et son conjoint. Alors cette description n'a pas pour but de nous saper le moral, mais puisque nous sommes dans la relation humaine à l'épreuve, il fallait bien en passer par ce descriptif quotidien que nous connaissons pour comprendre que ce qui nous paraît anormal est tristement la norme. Ces situations sont normales, elles sont fréquentes, et il est normal que notre équilibre familial, humain, passe toujours par le déséquilibre. Voici pour le contexte familial. Si on passe au contexte professionnel, et j'ai vu déjà dans la petite librairie que les organisateurs ont monté plusieurs ouvrages qui traitent du burn-out, par exemple, cela pointe le fait que dans la vie professionnelle aussi, il y a la relation humaine est à l'épreuve. L'épidémie de burn-out montre bien, marque la rupture avec un autre type d'équilibre, souvent celui entre vie professionnelle et vie privée. Il marque aussi la rentabilité humaine poussée à l'excès, à l'extrême, celui d'un management souvent abusif dans certaines grandes entreprises ou tout simplement incompétent. Situation conflictuelle aussi parce que du point de vue du chef de l'entreprise, il peut subir des salariés qui s'investissent peu et qui, se laissant porter par la vague, délèguent aux chefs d'entreprise toute la responsabilité de la bonne marche des choses. Et ça, c'est l'écrasant de devoirs et de responsabilités. Et combien il y a aujourd'hui de petits chefs d'entreprise qui se suicident, ou d'artisans ou d'agriculteurs, parce qu'ils n'y arrivent plus, ils sont trop seuls. Donc vous voyez, dans la vie professionnelle, la relation humaine est ce qu'il y a de plus douloureux, de plus difficile aussi, et c'est là aussi que l'équilibre est le plus difficile à trouver. Si on passe au niveau politique, au niveau collectif, que ce soit à l'échelon des communes, des régions, du pays ou au niveau international, nous le savons, les relations aux autres, à l'autre, ne sont pas plus faciles. Tout l'édifice du droit international vise depuis déjà plusieurs siècles à maintenir un ensemble, une coexistence de peuples, une coexistence toujours menacée, toujours précaire. Les conditions de la paix ne sont jamais faciles à réunir, et les tentations de repli sur soi, de nationalisme poussé à l'extrême, sont très grandes. L'autre est toujours considéré comme une menace. Alors nous revoilà au thème d'il y a 2 ans, l'autre et les autres, une chance ou une menace. C'est plus souvent perçu comme une menace dont il faut se protéger, voire se défendre. Et comme nous savons que la meilleure défense, c'est l'attaque, voire attaquer. L'exemple très récent du Brexit nous le montre, tristement peut-être, bien que ça reste dans le cadre de négociations économiques et diplomatiques, mais en Syrie, en Afrique, dans d'autres zones de guerre, nous sortons complètement du cadre diplomatique et économique, ce cadre explose et les situations de crise sont suraiguës. Voilà, je suis désolée parce que je sens que c'est du coup un petit peu tendu. La situation est effectivement extrêmement sombre. Les relations aux autres, quel que soit l'échelon, que ce soit l'échelon individuel ou l'échelon collectif, que ce soit l'échelon familial ou l'échelon international à l'extrême, toutes ces relations sont le lieu de conflits permanents, quotidiens, dont nous cherchons, que nous cherchons à assumer, à traverser, ou parfois qui nous écrasent totalement. Problématique donc de cette matinée, la situation normale est celle du conflit, et la question que nous allons nous poser en ouvrant les récits bibliques, nous y venons, puisque cette situation normale est celle du conflit, puisque les blessures sont la réalité, il s'agit moins de les éviter que de chercher à les assumer, à les dépasser, sinon à les guérir. Et c'est ici que les récits bibliques nous rejoignent et que nous allons les interroger avec la notion de résilience. Deuxième partie, qu'est-ce que la résilience ? Voilà. La résilience, effectivement, c'est d'abord une notion en sciences dures, en sciences physiques. Et comme vous venez de le dire, c'est la capacité d'un matériau à reprendre sa forme initiale après un choc. Je simplifie un petit peu. Donc, premier contexte, le mot résilience apparaît dans le contexte des sciences dures. Et donc, c'est la capacité pour un corps, un organisme et par extension pour une organisation ou un système à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Alors, ce concept est utilisé donc dans plusieurs contextes. Celui de l'armement, de l'aérospatial. Alors, je vais ici vous faire un petit résumé tel que je l'ai compris. D'abord, vous dire que le mot résilience vient du latin. Résilio, qui veut dire sauter en arrière, par extension rebondir, résister. Donc nous y voilà, à l'idée que le matériau résiste. Rebondir, résister, sauter en arrière. Capacité donc à faire face à un choc. Phénomène de rebond. Le psychologue Boris Cyrulnik, et on y reviendra dans un instant, a défini la résilience comme l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. Ce terme est, dit-il, souvent employé par les sous-mariniers de Toulon, car il vient de la physique. Et en psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Alors pour un avion, pour ceux qui sont phobiques de l'avion, c'est très intéressant. La résilience est la capacité d'un avion à se maintenir en vol dans un contexte dégradé. Et donc c'est une tolérance à la panne, la résilience. C'est sa capacité à maintenir son fonctionnement et à évoluer, c'est-à-dire à aller atterrir malgré un choc. Donc c'est un exemple assez intéressant parce que quand vous êtes en avion, finalement, la résilience, c'est l'essentiel. Le terme résilience a aussi été utilisé, est utilisé en biologie, en écologie. C'est par exemple la capacité d'une espèce, malgré une avarie, à continuer à se développer, à récupérer un fonctionnement normal, à retrouver son développement normal. En économie, la résilience, c'est la capacité à retrouver une trajectoire de croissance malgré un choc. Par exemple, on verra si la Grande-Bretagne est résiliente d'ici quelques années. En thermique, la résilience, c'est la capacité d'un matériau à conserver son énergie, sa température dans la durée. En informatique, c'est la capacité d'un système ou d'un réseau à continuer à fonctionner malgré une panne. En art, c'est la capacité d'une œuvre d'art à garder sa beauté, son esthétique, malgré une altération. Pour une organisation, pour une entreprise, la résilience, c'est sa capacité à s'adapter après la survenue d'un incident. Par exemple, je pense au PDG de Total, je crois, qui a été tué dans un accident d'avion brutalement. C'est la capacité de l'entreprise à maintenir son organisation, même si la tête est coupée. Dans le domaine de la gouvernance, la résilience, c'est la capacité à intégrer le risque social, par exemple. En ce moment, on est dans un contexte de grève. La résilience du gouvernement serait de maintenir sa trajectoire en dépit de l'adversité à son programme. Et donc en psychologie, et c'est ça qui nous intéresse, et je dirais même en anthropologie pour nous, en psychologie, c'est la capacité d'un individu à maintenir un élan vital ou à retrouver son élan vital en dépit d'une blessure. Alors le nom est sorti déjà, c'est Boris Cyrulnik, qui en France a fait connaître et qui a beaucoup travaillé sur cette notion de résilience. Et à la librairie, vous trouverez deux de ses petits ouvrages, Un vilain petit canard, et puis le deuxième titre, c'est Un merveilleux malheur. Alors déjà, dire que la résilience est un concept très intéressant, parce qu'on l'a compris avec l'exemple de l'avion, nous ne sommes pas dans le champ sémantique de la guérison. Très naturellement, nous associons blessure, et puis l'opposé de la blessure, ça serait la guérison de la blessure. La résilience est un autre concept, c'est la possibilité de poursuivre sa vie avec la blessure. On ne cherche donc pas la perfection du fonctionnement. On ne cherche même pas le fonctionnement normal, puisqu'on a dit que la normalité n'existe pas, mais on cherche le fonctionnement en dépit de tout, en dépit des chocs. Et ce schéma de pensée m'est apparu très approprié à la vie, puisque nous avons décrit une vie quand même extrêmement piégée, avec énormément de difficultés, de conflits, de blessures. Et donc, nous cherchons l'équilibre dans le déséquilibre. Et c'est le propre de la résilience. Chercher l'équilibre dans le déséquilibre. Chercher la relation à l'autre en dépit des coups. Parce que la grande tentation, c'est justement pour se protéger des coups et des blessures, d'arrêter de vivre en relation. C'est de se replier sur soi et de se protéger. Mais ce faisant, on bloque tout aussi la vie. Et donc celui qui a porté un coup a réussi, en quelque sorte. L'enjeu de la résilience, c'est de maintenir notre capacité à entrer en relation qui est source de vie, tout en assumant la part d'épreuve, la part de blessure. Alors ce terme de résilience est né dans un contexte qui est celui de chercheurs américains dans les années 40-50. Et c'est d'abord une recherche empirique. Et c'est sans doute ce qui fait la force du concept de résilience, c'est pas d'abord une théorie, c'est le constat d'expérience que certains enfants qui auraient dû développer des troubles psychosociaux parce qu'ils étaient nés ainsi, parce qu'ils évoluaient dans tel contexte mortifère, semblaient condamnés à les développer. Et après les avoir étudiés sur 3 ou 4 générations, ces chercheurs ont découvert que certains, certes, développent ces troubles, mais d'autres non. D'autres ont échappé à une espèce de fatalité de reproduire des schémas auxquels ils semblaient condamnés. Et les chercheurs américains ont appelé résilience la capacité de ces enfants devenus adultes à échapper à leur destin, à échapper au risque psychosocial qui était le leur, pour développer au contraire une trajectoire tout à fait saine, tout à fait heureuse et épanouie. Boris Cyrulnik s'est emparé de ce concept et l'a développé lui aussi dans des recherches empiriques, et il a étudié les personnes qui avaient été en camp de concentration pour étudier après quelle était leur trajectoire. Certains ont été écrasés, il est vrai, par cette expérience absolument inhumaine, abominable, abominable, mais d'autres ont rebondi, d'autres ont fait de très belles trajectoires, et on pense par exemple à la ministre Simone Veil. Et ils sont très nombreux à avoir échappé au pire, à avoir vu l'inhumain, et au contraire à être devenus eux-mêmes de plus en plus humains. Ils ont cette capacité de résilience. Ça veut dire que la résilience, on la constate. On ne peut pas chercher à être résilient ainsi. Ce n'est pas une théorie. On la constate et c'est un fait empirique. Et je me dis que c'est un petit peu comme la foi. La foi, on la vérifie après coup. On croit d'abord, on s'engage. Et c'est après coup qu'on vérifie ce que l'on croit. Eh bien, la résilience, c'est pareil, c'est un antidestin, on dira, une antifatalité. On constate qu'un être n'est pas condamné à ce qu'il était prévu qu'il soit, y compris par les plus belles théories. La résilience, c'est l'antithéorie. Et la résilience, c'est donc l'irruption d'un avenir possible, là où tout semblait bouché, quand le traumatisme a été trop fort, quand l'enfance a été trop ratée, quand l'épreuve a été trop lourde, quand le cap semblait trop difficile à franchir, il y a une capacité de rebond. La résilience, c'est bien de dire que la fatalité n'existe pas. Alors pour nous qui sommes chrétiens, il y a là une consonance très forte de ce concept, de cette notion, avec notre espérance chrétienne. Je viens de parler de la foi, mais l'espérance plus encore qui est nôtre, c'est ce dynamisme de vie qui prend source quand même dans un tombeau. Nous sommes quand même, je pense, les seuls à imaginer que la vie surgit de la mort, que la lumière vient après la nuit, que la résurrection naît de l'échec, qu'on passe de la solitude à la communion, de l'esclavage à la libération. Nous aussi, nous sommes dans un contexte de blessures et de noirceur totale, et nous aussi, nous espérons une réalité de rebond, un rebond, une traversée, un rebond. C'est donc un même dynamisme de vie qui parcourt la résilience et l'espérance chrétienne. Alors nous allons entrer dans les récits bibliques, ces fameux récits bibliques, à la lumière de cette notion de résilience. Quand nous éclairons comme ça les récits d'une notion extérieure qui vient bien après, hein, qui a été élaborée bien après les récits bibliques, il ne s'agit pas de baptiser la résilience. Il ne s'agit pas de dire que toute résilience est une expérience de résurrection. Alors, vous en discuterez tout à l'heure dans les groupes, mais il s'agit bien de comprendre qu'il y a au cœur des récits bibliques l'humain, cette structure, cette permanence de l'humain, et donc cette résilience, si c'est une notion anthropologique, vient entrer en consonance avec l'anthropologie portée par les récits bibliques. Il y a bien d'un côté la Bible, de l'autre le journal, d'un côté la Bible, de l'autre notre actualité, d'un côté la Bible, de l'autre cette notion de résilience moderne. Alors premier récit, celui de Joseph et ses frères, dans la Genèse, au chapitre 37, versets 39 à 47, notamment hein, parce que le récit de Joseph s'étale sur d'autres chapitres. Joseph est le fils de Rachel, la préférée du père. Le père a eu plusieurs femmes, hein, Jacob a eu plusieurs femmes, et Joseph est son préféré, et il le manifeste. Mais du coup, les frères de Joseph, les frères qui sont issus des autres couples, de Léa et des servantes, les autres frères sont jaloux. Et puis Joseph n'est peut-être pas très adroit parce qu'il a des songes. Et il raconte à ses frères ses songes. Et dans ses songes, il a la bonne part. Et donc ça redouble la jalousie des frères. Alors les frères décident de le faire mourir, de le faire disparaître. Et c'est le propre de la jalousie, c'est de vouloir que l'autre disparaisse. On est tranquille que s'il est mort, quoi. On a le sentiment que s'il n'était pas là, tout irait bien. Eh bien, c'est l'expérience que faisaient Joseph et les frères de Joseph. Et donc, ils cherchent à l'éliminer jusqu'à le déporter, le vendre comme esclave et le déporter en Égypte. Alors, on passe les détails, hein, mais vous pourrez relire le récit, cette lumière, et à chaque étape, on voit les frères, tuons-le, hein, puis ils le font descendre dans une citerne, puis ils le vendent en Égypte. Enfin, il y a toutes les étapes de la jalousie, toute cette espèce de gradation mortifère où ça suffit jamais, hein, il faut aller jusqu'à la disparition totale de l'autre pour se sentir exister, pour se sentir bien. Alors on y voit bien sûr une préfiguration de Jésus, hein, puisque ils vont tremper dans le sang de l'agneau qu'ils immolent l'habit de Joseph. Bon, on ne va pas rentrer là, mais on peut relire aussi la vie de Jésus, la passion de Jésus dans ce même esprit. Les frères plus qu'irrités face à Joseph qu'ils jalousent vont le faire disparaître. mais Joseph se remet debout. Et on retrouve notre Joseph en Égypte, après un tas d'histoires que vous lirez, vice-roi d'Égypte. Non seulement d'esclave il est devenu libre, mais d'étranger il est devenu gouvernant. Voici un bel exemple de résilience. Il devient une personne estimée d'abord par les Égyptiens et plus encore. Deuxième exemple de résilience ici dans ce récit, il devient estimé par sa famille. Il retrouve ses frères, il retrouve son père, et son père, Jacob, s'exclame : « Mon fils est vivant, lui que je croyais mort. Mon fils est vivant, lui que je croyais mort. » Le processus de résilience y concerne donc là à la fois Joseph, et à travers Joseph, toute sa famille, y compris ceux qui, parmi cette famille, avaient cherché à le faire mourir. La résilience a un aspect contagieux et elle touche même ceux qui étaient à l'origine de la destruction, de la blessure et de la mort. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le texte de Joseph et ses frères. Si certains, ça les intéresse, vous pouvez le relire et puis même en groupe le partager vos idées. Mais ce que j'aimerais montrer ce matin, c'est qu'il y a un flux de résilience dans les récits bibliques. Et donc on ne va pas se concentrer sur un seul récit qu'on décortiquerait, on va essayer de constater ce flux, cette résilience qui traverse toute la Bible. Alors deuxième exemple très fort, Job. Alors Job est mis à l'épreuve, nous le savons. Il va avoir des souffrances physiques, morales, sociales, hein, il va perdre tous ses enfants. Sa femme entre en conflit avec lui, au point qu'elle le supplie de maudire Dieu. Et c'est l'épreuve suprême pour Job, c'est-à-dire d'entrer en contradiction avec sa foi, avec le cœur de sa vie, maudire son Dieu. Et cela lui est demandé par sa femme. Job est donc en porte-à-faux avec tous ses points d'appui, son propre corps, il est malade, avec sa famille, il a perdu ses enfants, il est en conflit avec sa femme, et avec sa foi, avec son Dieu. Et cerise sur le gâteau, surviennent ceux qu'on connaît bien, les amis de Job, les fameux amis de Job, avec leur théologie simpliste, avec une conception de Dieu que tout le livre de Job va dénoncer, à savoir que quand on souffre, c'est qu'on l'a bien mérité. Et ça, nous l'entendons souvent. Et parfois même, on le dit. Elle s'est fait renverser dans la rue, mais est-ce qu'elle était dans les clous ? C'est pas sûr. Il a subi des revers dans son entreprise, mais est-ce qu'il fallait aller en vacances si souvent ? Il y a une raison au fait que tu souffres. Si tu souffres et si tu subis des revers, c'est qu'il y a bien quelque part un petit quelque chose de ta part qui contribue. Au fond, c'est que tu as péché, c'est que tu as offensé Dieu. C'est cela que disent les amis de Job. Et le raisonnement des amis est donc tout simple, simpliste. Il repose sur une forme de loi. Si ça va mal, c'est que tu y es pour quelque chose. Et la réaction de Job, sa résilience à lui, c'est de partir de sa vérité. Il est innocent et à aucun moment il ne va dire le contraire. À aucun moment il ne va accéder au discours de ses amis. Je suis innocent. Que cela corresponde ou non au système théologique de ses amis, ce n'est pas son problème. Il est innocent, mais il souffre. Donc il souffre injustement. Et c'est en protestant, c'est en clamant son innocence malgré tout, en s'insurgeant, et même jusqu'à citer Dieu au tribunal, que Job est résilient. Il invective Dieu. Il lui dit « Je prends ma chair entre mes dents. » Son corps ici est l'expression de sa parole. « Je prends ma chair entre mes dents. » Et saint Thomas dira « Nul ne peut être vaincu quand il dit sa vérité, fût-ce contre Dieu. » Nul ne peut être vaincu quand il dit sa vérité, fût-ce contre Dieu. Et à la fin de l'histoire, Dieu donne raison à Job. C'est lui qui avait raison. La représentation de Dieu qu'avaient ses amis était fausse, elle était perverse, elle était idéologique. Et même si c'est rassurant de trouver une cause au mal, même si c'est rassurant et logique et rationnel de se dire « Bah oui, cette dame s'est fait renverser, mais elle aurait été dans les clous, ça aurait été quand même beaucoup plus normal. Bien sûr, tu es malade, mais t'avais pris froid, tu t'étais pas couvert. Hein, tu es pauvre, mais t'avais qu'à travailler. » Même si c'est rassurant d'avoir des explications, le livre de Job montre l'inverse, et Dieu donne raison à Job. Nous souffrons parfois injustement. Et l'expérience de la résilience de Job, c'est d'être resté dans sa vérité à lui. Le livre de Job nous dit donc qu'il n'y a pas toujours adéquation entre la situation aisée que nous avons parfois et la situation morale. Les riches ne sont pas riches uniquement parce qu'ils sont bons. Il y a dans le monde un scandale qui est celui du mal, et les choses ne se déroulent pas toujours de manière juste. Job a été capable de tenir, comment ? En s'ancrant dans sa propre vérité et dans une certaine foi que Dieu est avec lui malgré tout, jusqu'à oser l'invectiver, l'interpeller. « Oui, je voudrais, dit-il, que mon libérateur soit vivant. Il y croit malgré tout. » Et nous, parfois, quand nous sommes dans l'épreuve, nous pouvons avoir l'audace d'invectiver Dieu, de l'assigner au tribunal et d'avoir la foi de Job. « Je le sais, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. » Il a toujours gardé l'espoir de gagner. Voilà l'expérience de la résilience de Job. Ancré dans sa propre vérité, garder l'espoir de gagner. « Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, dit Job, et qu'à la fin, il se dressera sur la mort. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. » Alors là, vous ne savez pas la suite. Irruption d'un avenir. J'ai trouvé un petit texte qui m'est apparu résilient aussi, c'est celui de David et Goliath. Donc je le rajoute, David et Goliath, c'est dans Samuel 17, 1, 58. Ça vaut le coup de relire, vous le ferez à la maison, mais ce récit de David et Goliath. Alors on le connaît bien parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art sur David. Michel-Ange a fait de David une statue immense, inversement proportionnelle à la taille de ce petit bonhomme qu'était David en réalité. Et ça en dit long sur ce récit. Alors ce récit, vous le connaissez, les Philistins défient l'armée d'Israël. Et il y a un géant Goliath qui s'avance et qui demande qu'un autre soldat d'Israël puisse l'affronter dans un combat singulier. Et l'issue de ce combat décidera de la situation des deux peuples respectifs, puisque l'un deviendra l'esclave de l'autre. Personne n'est capable de défier Goliath, alors s'avance un enfant qui s'appelle David et qui veut combattre au nom du Dieu d'Israël. C'est un récit qui est plein d'humour, parce que ce petit bonhomme dit, par exemple, « Il n'y aurait donc pas un homme en Israël ?» On retrouve là l'insolence de l'enfance. Et puis les frères de David le rappellent à la raison, « Tu n'es pas sérieux, toi, petit gamin, à affronter ce géant. » Et David répond avec son humour, « On ne peut plus parler aujourd'hui. C'est l'enfant qui tient, c'est l'enfant qui résiste. » Et c'est cette expérience qui m'est apparue intéressante, celle de la résilience de l'enfant. Alors, puisque David est décidé, on se met à le revêtir de la cuirasse de Saül. Et évidemment, David n'est pas entraîné, il est donc incapable de faire un pas, revêtu de cette cuirasse. Il y a même un dicton qui dit « Il ne convient pas de revêtir David de la cuirasse de Saül ». En d'autres termes, les petits, les pauvres, les faibles, ne doivent pas prendre les moyens des forts. Sinon, ils ont déjà perdu, ils ne feront pas un pas. Mais l'histoire prend un autre chemin. Parce que le géant, lui, il s'imagine que son adversaire est semblable à lui, c'est-à-dire il s'attend à affronter un autre géant. Et il ne perçoit pas du tout qu'il a affaire à une toute autre stratégie. À un petit bonhomme léger, mobile et qui court vite. Avec sa fronde, il peut tirer à distance. Et c'est ainsi qu'il va atteindre le géant au front et le tuer. Et c'est avec l'épée qu'il va lui couper la tête. David a gagné sur Goliath. Le petit a gagné sur le fort. Alors, quelle est cette leçon de résilience que nous apporte ce récit? Ici, la résilience apparaît comme une force de foi, de conviction. Celle de David, qui pense déjà que Dieu est avec lui, qui ne doute pas. L'expérience de résilience aussi, c'est de montrer que les solutions innovantes, totalement différentes, qui sortent complètement des schémas habituels, sont victorieuses. Parce que l'issue des conflits est alors imprévisible. Et que dans cette zone d'imprévisible se joue, justement, la capacité de la vie à rebondir. Dans la résilience, il y a une zone intermédiaire. On le disait tout à l'heure, c'est une science empirique, la résilience. Quelque chose qu'on constate après coup. Ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude avant. Il y a une zone floue. Une zone où la mort et la vie s'affrontent, mais où la vie triomphe. Et on le constate après. C'est ce qui s'est passé pour David face à Goliath. Il y a eu une prise de risque, en d'autres termes. Et ce récit est loin d'être unique dans l'histoire. Et on peut penser par exemple à l'histoire de Gandhi face à l'Empire britannique. Gandhi a mobilisé des moyens qui n'étaient pas du tout ceux, les moyens politiques habituels. Les Britanniques n'avaient aucune idée. Ils mobilisent le jeûne, la prière, la non-violence, et il finit par vaincre, par dégager une force incroyable et par vaincre l'Empire britannique. On pense aussi à Mandela face à l'apartheid. C'est au cœur de la prison où il a passé, je crois, 28 ans qu'il a mobilisé les ressources qui, après, vont permettre de vaincre l'apartheid. La vie prend des chemins sinueux, elle passe par des petits chemins et pas par les autoroutes. Et ça paraît évident à dire, mais c'est ça l'expérience de la résilience. Et parfois, quand vous êtes sur les petits chemins, vous n'êtes pas sûr d'arriver au bout, quoi. Hein, il y a des impasses, on fait demi-tour. Et on se demande quand même s'il ne serait pas été plus direct d'aller d'un péage à un autre péage. Voilà l'expérience de la résilience chez David, la résilience de l'enfant qui nous enseigne que la vie est innovante et que l'innovation est toujours une prise de risque et qu'elle nous impose de traverser des zones intermédiaires où il n'y a pas de certitude, mais on constate après coup que la vie est passée et qu'elle est infiniment plus belle et généreuse que ce qu'on avait imaginé. Alors le Nouveau Testament, dernière partie. Dans le Nouveau Testament, la résilience apparaît également de manière soit implicite, soit explicite, mais toujours il y a cette dynamique de vie. Alors d'abord, cette dynamique de l'amour de Dieu jusqu'à l'extrême. C'est très net, par exemple, en Romains 5, 1, 11. Je cite « Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, l'espérance, et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Alors vous voyez, là, il y a toute une gradation. La détresse, persévérance. La persévérance se transforme en fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée en espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Une espèce de gradation de vie. Et ils sont très nombreux les passages où vous trouverez cette dynamique de transformation de la faiblesse en force, d'un tourment en joie. Et c'est l'expérience même, implicite, discrète, silencieuse, au matin de Pâques. Alors un extrait explicite, cette fois-ci, qui précise encore un peu plus ce qu'est l'expérience de la résilience dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est ce passage de Jean 20, 24 à 29. Dans l'évangile de Jean, il y a la rencontre entre Jésus et Thomas, cet apôtre qui nous ressemble, celui qui ne croit pas, qui a du mal à croire, parce qu'il n'était pas là. Et il a l'impression qu'on lui raconte des fables. Dans cet épisode de Jean 20, après la résurrection, donc, Thomas est invité par Jésus à croire. Et qu'est-ce que Jésus va lui montrer pour l'inviter à croire ? Il va lui montrer ses blessures. Nous le disions tout à l'heure, l'expérience de la résilience, c'est celle de la blessure qui demeure. La vulnérabilité demeure, et c'est le cas dans ce récit. Jésus ressuscité porte ses blessures. Le corps ressuscité porte les blessures de la passion. Ce n'est donc pas le corps d'avant, c'est le corps d'après la résilience. On ne revient pas à la case départ, on assume la transformation et c'est le corps d'après, le côté est ouvert. Et c'est précisément là que Jésus invite Thomas à mettre son doigt. Mets tes mains dans mon côté blessé, dans la plaie, dans la blessure. Donc le Jésus que Thomas voit et dont il fait l'expérience, c'est le Jésus résilient. C'est un corps mis à mort, mais maintenant plus que vivant et qui ne mourra plus. Ce n'est donc pas l'expérience de la réanimation d'un cadavre, ce n'est pas non plus une espèce d'auto-guérison magique, mais c'est bien l'expérience d'une profonde résilience. Rien de ce qui a été n'est effacé. Dans la résilience, la vulnérabilité demeure, l'histoire demeure, le passé demeure, mais un avenir est rendu possible. Alors cette lecture de la résilience, vous pouvez la faire en de nombreux autres passages, dans les carrefours, vous pourrez, si vous avez la Bible avec vous peut-être, ou même de mémoire, rechercher des passages et les relire à la lumière de la résilience. Et pour moi, et c'est en guise de conclusion, je voudrais vous lire un passage de saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, qui ne mérite aucun commentaire, je pense que vous allez comprendre. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour le Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.